Bonjour à tous et bienvenue dans le Bistrot de la Vie. Nous avons choisi de parler d'un sujet difficile ce matin, je vous préviens tout de suite. Un sujet difficile mais ô combien ignoré. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous allons y consacrer une petite heure ensemble. Une petite heure, c'est bien peu pour essayer de comprendre, évoquer ce drame de la maladie en général et d'une maladie méconnue en particulier, la sclérose en plaques. Un mal qui frappe 80 000 personnes en France, dont la majorité ont entre 20 et 40 ans. Un mal qui frappe plus les femmes que les hommes, allez savoir pourquoi, on va en parler tout à l'heure. Je dis allez savoir pourquoi, parce qu'aujourd'hui, en 2009, eh bien, en fait, on ne sait pas grand-chose encore de la sclérose en plaques, et l'on ne sait pas non plus la soigner, en guérir en tout cas. On sait en revanche en atténuer, en diminuer les effets face à cette maladie. Les associations qui militent sur le sujet de la sclérose en plaques organisent cette année la 4e édition des Journées nationales de lutte contre donc la sclérose en plaques. Et ces journées ont lieu cette semaine et nous avons donc décidé de leur ouvrir nos portes, les portes bien sûr du Bistrot de la Vie pour parler de ce sujet délicat, difficile, mais qui mérite d'être médiatisé comme beaucoup d'autres. J'ai le plaisir de recevoir en plateau Carole Desmulatiers. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice à l'UNICEF. L'UNICEF, c'est l'Union pour la lutte contre la sclérose en plaques. Et l'UNICEF regroupe plusieurs associations œuvrant pour le même but, le combat donc contre la sclérose en plaques. Bruno Stankov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, vous êtes neurologue hospitalier à l'hôpital Thénon à Paris. Et vous êtes également maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes aussi un des auteurs de Le Point sur la sclérose en plaques, paru aux éditions Vidal l'an dernier. Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Vous-même, vous êtes atteint de la sclérose en plaques. Vous allez nous en parler
durant
cette émission. Mm-hmm. Michel Bliot, vous êtes, vous, président de la NAFCEP. Bonjour.
Oui, bonjour.
La NAFCEP, c'est la nouvelle association française des sclérosés en plaques. Et vous êtes vice-président également de l'UNICEF. Voilà, bah, donc quel plateau. Je vous rappelle que cette émission est interactive. Donc vous pouvez nous appeler au 08 92 68 80 30, 08 92 68 80 30, notamment, tiens pourquoi pas, depuis Rouen, où vous nous écoutez sur 90.6, Arcachon 94.6 ou Vichy 89.2. C'est quoi la sclérose en plaques, Bruno Stankov, docteur Bruno Stankov?
La sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique qui touche donc le cerveau et la moelle épinière. En fait, de manière un petit peu schématique, c'est une réaction inflammatoire qui va s'attaquer au système nerveux et notamment à une partie du système nerveux qu'on appelle la myéline. Les gaines de myéline, ce sont des formations qui entourent les fils électriques que l'on a dans le système nerveux pour conduire l'information, et ça en permet la bonne conduction, ça permet d'accélérer cette conduction nerveuse et d'avoir un fonctionnement neurologique normal. Et donc dans cette maladie, c'est la gaine de myéline qui est touchée par une réaction inflammatoire, et quand la gaine de myéline est touchée sur une région qui a une fonction particulière, eh bien, on peut observer l'apparition de symptômes en fonction de la région du système nerveux qui est touché. Ça peut être des symptômes moteurs, sensitifs, visuels, l'équilibre, etc. Donc, globalement, une atteinte de la structure de la myéline du système nerveux, mais la présentation qui en découle est éminemment variable, puisque selon la région où les plaques de démyélinisation se forment, on peut avoir des symptômes très différents. Donc, ça c'est pour schématiquement replacer la maladie.
Est-ce qu'en 2009, on sait pourquoi ça arrive ?
Actuellement, on ne connaît pas la cause de cette maladie. On n'a pas une cause, par exemple une infection responsable de la maladie chez tous les patients. On a un certain nombre d'explications, d'hypothèses sur les mécanismes qui sont responsables de cette inflammation. Notamment, on pense qu'il y a un phénomène auto-humain, c'est-à-dire que les cellules immunitaires, qui normalement reconnaissent des agents étrangers à l'organisme, vont s'attaquer à des antigènes, à des déterminants moléculaires qui sont présents dans le système nerveux sur la gaine de myéline. Donc il y a une réaction auto-immune qui se crée avec un certain nombre d'éléments déclencheurs, de facteurs favorisants, mais aujourd'hui on doit dire qu'on ne connaît pas la cause de cette maladie.
On a évoqué une cause génétique possible.
Alors, il y a, comme pour beaucoup de maladies en médecine,
des terrains favorables.
Un terrain favorable au déclenchement de la maladie. Mais ça n'est pas une maladie qui se déclenche liée à une mutation d'un gène donné. C'est-à-dire que on ne transmet pas la maladie à ses enfants comme une maladie dite héréditaire.
On a aussi parlé, on le trouve même sur les notices de ces vaccins, On a parlé du vaccin de l'hépatite B comme étant un des éléments. Alors aujourd'hui, on dirait déclencheur. À une époque, on pensait que c'était le vaccin contre l'hépatite B qui provoquait la sclérose en plaques chez un patient tous les X milliers ou dizaines de milliers.
Je dirais que ça, c'est une vaste polémique récurrente depuis plusieurs années, qui va continuer à être à l'origine de débats. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quand il y a eu des campagnes de vaccination massives dans la population générale, on a observé un certain nombre de cas de sclérose en plaques qui se déclaraient après une vaccination. Donc tout ça a conduit à élaborer des études épidémiologiques pour vérifier qu'il existait ou non un lien entre cette vaccination et le déclenchement soit de la sclérose en plaques, soit d'une poussée de sclérose en plaques. On reviendra probablement à ce qu'est une poussée tout à l'heure. Et en fait, en l'état actuel des connaissances, ce que l'on peut dire, c'est qu'a priori, il n'y a pas de lien direct entre cette vaccination et la maladie. Il existe néanmoins, évidemment, quelques cas troublants de rapport dans le temps entre la vaccination et le déclenchement de la maladie, mais...
C'est-à-dire rapport proche.
Proche, c'est-à-dire de survenue de poussée ou de déclenchement de la maladie après une vaccination. Mais à l'échelle de la population, on n'a pas pu retrouver de lien. C'est-à-dire que probablement, si on avait fait une autre vaccination à ce moment-là ou un autre acte thérapeutique, la maladie se serait tout de même déclenchée au même moment. Donc on n'a pas pu établir, en l'état actuel des connaissances, de lien de causalité. Il n'empêche que des études se poursuivent pour affiner l'épidémiologie de ce lien.
Carole Dumulati, Michel Billot. Michel Billot.
Si j'ai bien compris, toute attaque du système immunitaire peut provoquer une poussée. Et n'importe quel vaccin contre la grippe, la rougeole ou n'importe quoi serait susceptible de...
Alors, je suis pas sûr qu'on vous ait bien entendu. Je suis pas sûr que votre micro était bien ouvert. Moi, je vous entendais pas bien. Question donc pour vous, docteur Stankov.
Oui, la question est... Est-ce que n'importe quel type de vaccin, en tant qu'attaque du système immunitaire, peut provoquer une poussée?
Je crois que la réponse que l'on doit donner est non. C'est-à-dire que les vaccinations sont effectivement des stimulations du système immunitaire, mais que ce ne sont pas des déclencheurs de poussée de la maladie. Et ça a été démontré dans des études épidémiologiques, notamment une étude réalisée par l'équipe lyonnaise qui a étudié les différentes vaccinations qui existaient et le risque de poussée après ces vaccinations. Il n'a pas été trouvé d'augmentation des poussées de la maladie après quelles que soient les vaccinations. Donc la vaccination en soi n'est pas le déclencheur des poussées.
Merci.
Alors, moi, c'est une question pour vous, Carole Dumulatier, Michel Billot, mais pour vous tous aussi. On en parle aujourd'hui. Comme si on découvrait en fait la sclérose en plaques, mais elle a toujours existé, sauf que on ne savait pas forcément la diagnostiquer, c'est ça le problème.
Elle était, oui, mal diagnostiquée au départ. C'est un des problèmes de la prise en charge du malade, c'est diagnostiquer rapidement la maladie. Bon, ce qui maintenant est peut-être un peu mieux répandu, je pense. Justement, elle est mieux connue.
Même mais en gros, du temps des pharaons, il y avait a priori déjà des personnes atteintes de la sclérose en plaques, mais on ne savait pas donner un nom à cette maladie, d'accord.
Et là, plus récemment, maintenant, donc avec ces formations, les généralistes arrivent à mieux aiguiller plus rapidement les malades vers un neurologue en comprenant que ça peut être une sclérose en plaques. Mais c'est vrai que tous ces travaux existent depuis l'ANAFCEP et l'ARCEP et sont là depuis 40 ans.
Donc ça, c'est les associations qui militent pour...
Voilà, la recherche médicale, l'aide aux patients qui sont là depuis 40 ans sur le terrain, mais qui peut-être ne communiquaient pas sur les travaux qui étaient faits. Et puis bon, bien sûr, il y a tous les chercheurs qui travaillent dessus depuis je sais pas combien de temps, docteur Stankov, 100 ans peut-être maintenant,
Personnellement, ça fait pas 100 ans que je travaille dessus, mais effectivement, la recherche se développe depuis plusieurs dizaines d'années dans le secteur.
Il faudrait remonter au professeur Charcot.
Voilà. Au niveau mondial, cette maladie existe partout. Tous les peuples sont de manière identique frappés.
Il y a des régions. On a fait une étude pendant les états généraux. Le docteur Stankov peut peut-être en parler.
Alors, cette maladie, au point de vue de la planète, a une répartition qui n'est pas homogène, effectivement. C'est une maladie qui est observée dans certaines régions géographiques avec une plus forte prévalence, notamment quand on prend l'hémisphère nord, notre hémisphère, on a une plus grande prévalence de la maladie dans les régions tempérées nordiques, c'est-à-dire par exemple en Grande-Bretagne du Nord. On retrouve un gradient que l'on appelle gradient nord-sud, avec un peu plus, même franchement plus, de maladies dans les régions au nord. Et ça se retrouve, ce gradient de prévalence, et je pense que c'est cette étude à laquelle vous faisiez allusion, à l'échelle de la France, avec une fréquence de la maladie légèrement supérieure dans les régions nord-est de la France, comparativement aux régions sud et notamment sud-ouest. Et ça, cette différence de fréquence reflète probablement l'un des facteurs que l'on n'a pas identifié mais qui pourrait concourir au développement de la maladie, qui est le facteur lié à l'environnement. Et ce facteur lié à l'environnement pourrait être une infection, mais on n'a pas identifié actuellement de virus causal.
L'alimentation
pourrait être, après c'est ouvert, pourrait être lié à l'alimentation,
l'eau,
l'ensoleillement, un certain nombre d'hypothèses. L'ensoleillement est une hypothèse aujourd'hui qui fait l'objet de recherches, parce que l'on pense que le fait d'avoir du soleil permet notamment de libérer de la vitamine D dans l'organisme, qui a des effets à la fois modulateurs et protecteurs.
Quand est-ce qu'elle a été découverte, cette maladie? Quand est-ce qu'on a été capable de mettre un nom sur cette maladie qui existe donc depuis toujours et qu'on semble découvrir depuis peu?
Comme disait Monsieur Billot, c'est professeur Charcot qui a découvert.
C'est à lui qu'on doit ça.
Oui, et à qui on doit d'ailleurs un lourd héritage, parce qu'on appelle cette maladie du nom qu'il lui a donné, c'est-à-dire la sclérose en plaques, ce qui fait penser à une maladie dermatologique ou à n'importe quoi, alors que partout ailleurs dans le monde, elle s'appelle sclérose multiple, ce qui explique beaucoup mieux...
On explique le mot sclérose pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on entend par sclérose?
Oui, difficile. Sclérose est en fait un terme pathologique, c'est-à-dire un terme de neuropathologie, d'anatomopathologie, ce qui veut dire qu'il y a une sorte de fibrose cicatricielle dans... ça n'aide pas beaucoup, mais disons que c'est un terme qui est un peu ancien. C'était la caractérisation des lésions anciennes au moment où la maladie était décrite, donc à la fin du 19e siècle, mais on s'aperçoit aujourd'hui que ce qui caractérise mieux les lésions de cette maladie, c'est la perte de myéline plus que la sclérose, mais on a gardé le nom historique.
Alors, on parle de tout cela, et puis Jérôme est avec nous. Quand vous vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui a été un signe pour vous?
Maintenant, il y a 2 ans, le signe annonciateur, j'allais dire, ça a été la jambe droite. Qui a fait qu'un matin je ne marchais plus, ou en tout cas pas du tout correctement.
Un matin, brutalement. Vous couchez
Je me couche comme d'habitude, je me réveille, je dois aller faire des courses, je prends les marches, je marche et d'un coup, au bout de 10 mètres, ma jambe flanche. C'est-à-dire comme quand on est enfant, vous savez, on vous met un coup derrière le genou et puis votre jambe, moi ma jambe commence à faire ça, tiens. Pendant 50 mètres, donc on se pose des questions, je me dis tiens, ça c'est quand même pas normal, j'ai pas bu, il y a un truc qui va pas.
On a pas mal, simplement ça répond pas.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une sensation une perte de sensation et un déséquilibre, donc qui fait que on maîtrise vraiment plus sa jambe.
Rien à voir avec une grosse fatigue quand on a un gros coup.
Rien à voir avec une grosse fatigue, rien à voir avec une séance de sport intense, rien à voir avec rien n'expliquait.
Rien à voir avec des fourmis dans les jambes, rien à voir avec un air coincé.
Du tout. Voilà, plus du tout de maîtrise de sa jambe. Donc là, généraliste qui m'a heureusement fait ce que pratiquent en principe les neurologues, donc des tests neurologiques qui ont démontré tout de suite qu'il y avait un déficit moteur, c'est-à-dire on se met sur le dos, les jambes en l'air. Il s'avère que ma jambe droite ne tenait plus et elle tombait toute seule. Donc il m'a dirigé tout de suite vers un examen, effectivement l'IRM, qu'on pratique pour constater si effectivement il y a des lésions ou dans le cerveau ou dans la moelle. Et là, on a constaté qu'il y avait des choses. Voilà.
Là, on est à combien de jours de ce premier
48 heures.
Ah oui,
ça va très vite.
Donc là, vous êtes quand même la super exception, Jérôme, parce que désolé, mais
oui, c'est très rapide. Ça a été très rapide, très rapide.
Et là, on vous explique. Et vous avez quel âge là aujourd'hui, Jérôme?
J'ai 35 ans. Et on me l'a expliqué à 33. Mon médecin généraliste a été cash, c'est-à-dire qu'il n'a pas été par 36 mots.
C'est lui qui vous explique, c'est pas un neurologue.
C'est lui qui m'explique. Non, c'est pas un neurologue. En sortie de première IRM, en fait, le radiologue m'explique qu'il y a des choses dans la moelle épinière, mais qu'il faut que je prenne rendez-vous avec un neurologue et qu'on m'explique plus la chose.
D'accord.
Pour là, vous êtes un point d'interrogation. Oui, ça commence. En plus, il y avait des antécédents familiaux, etc., ce qui disait qu'on n'est pas forcément, on est inquiet, quoi. On se dit tiens, donc le rendez-vous avec la neurologue en urgence, qui elle, entre-temps, me fait passer une autre IRM cérébrale, qui là, pour le coup, confirme vraiment le diagnostic CEP. Donc là, en 4 jours, on sait.
CEP, sclérose en plaques.
Sclérose en plaques.
Et donc, votre médecin vous explique, et puis derrière, qu'est-ce qu'on vous explique, et ce que les associations qui sont ici expliquent, c'est que on peut vivre avec la sclérose en plaques.
On vit avec la sclérose en plaques. On vit évidemment avec la sclérose en plaques.
Soigne sans se guérir. Soigner,
non, je ne crois pas. Enfin, le docteur nous confirmera certainement.
On traite les conséquences.
On traite les poussées de la maladie, en fait, qui quand elle se manifeste. On traite ça par corticoïdes sur des séances de 3 jours où on nous donne des corticoïdes à haute dose pour arrêter l'inflammation qui se passe au niveau du système nerveux central, que ce soit moelle épinière, cerveau ou nerf optique. En dehors de ça, il y a des traitements. Moi, j'en ai un en ce moment qu'on appelle immunomodulateur, qui est censé calmer le système immunitaire. Ce sont les interférons. Très contraignant parce que tous les 2 jours, c'est une piqûre qu'on fait soi-même, etc. Donc ça, c'est un peu c'est très pénible. Et ça, c'est censé réduire le nombre de poussées annuelles de... Allez, moi, je suis très optimiste, je dis 40-50%. En même temps, chaque personne réagit différemment. Il y en a qui réagissent très bien et qui vont peut-être en faire plus ou moins. Voilà.
Oui, je crois qu'il est important d'être conscient que on vit, et on vit très longtemps, avec une sclérose en plaques, puisque l'espérance moyenne de vie n'est inférieure que de 5 ans à celui d'une population qui n'est pas atteinte.
Chouette. Je ne savais pas.
Et donc, ce que disait Dominique Farrugia l'autre jour...
Alors, Dominique Farrugia va expliquer, on a essayé de l'inviter, mais malheureusement, en ce moment, il est justement très pris, puis on m'avait laissé entendre qu'il était aussi un peu souffrant. Dominique Farrugia, vous savez, c'est un des inventeurs des guignols. Oui. Donc, un comique... qui les nuls, hein,
les nuls, ouais.
Voilà les nuls plutôt, ouais. Et voilà, il a découvert un jour qu'il était atteint de la sclérose en plaques, et il fait partie de vos associations, en tout cas c'est un militant de la cause de la sclérose en plaques. Il utilise sa notoriété pour faire la promotion, pour en tout cas faire entendre la voix des sclérosés en plaques.
Il a eu une phrase qui m'a beaucoup frappé. Il disait: on passe de la station debout normale à la canne, au fauteuil, au lit, mais le tout sur 50 ans.
Et puis c'est vraiment une partie minime, je pense. C'est 20% des malades, je crois, seulement, non, qui arrivent à être grabataires.
Alors, docteur Stankoff, on se tend vers vous tous.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est effectivement ce qui vient d'être dit, c'est que c'est une maladie qui va s'inscrire dans la durée. Donc, c'est une maladie qui ne réduit que peu ou pas l'espérance de vie, qui va donc s'étaler sur plusieurs dizaines d'années, et qui peut conduire au handicap, mais que ça n'est pas systématique. C'est-à-dire que on va être très très schématique si on prend l'ensemble des patients. Une petite minorité, finalement, 10% peut-être, aura une forme qu'on va considérer comme grave, agressive, c'est-à-dire qu'il faudra traiter lourdement, rapidement, pour éviter que des séquelles importantes s'installent. À l'autre extrême, on aura probablement un tiers des patients qui auront une forme qu'on va qualifier de peu sévère. On dit à tort, parfois bénin, mais c'est parce que justement, la maladie va peu évoluer, et on voit en consultation arriver des personnes, ça m'est arrivé il y a quelques jours, qui ont eu leur première manifestation avant que je ne sois né, et qui viennent me voir en marchant, et qui ont plus de 70 ans, si vous voulez. Donc, il y a aussi ces formes-là. Puis, entre les
deux... Pour lesquels on a fait le diagnostic déjà.
Oui, bien sûr. Pour lequel le diagnostic avait été fait à l'époque un peu plus lentement qu'aujourd'hui.
Alors justement, je voulais en parler parce que en faisant la préparation de l'émission, en préparant l'émission évidemment, j'ai vu qu'on disait qu'en moyenne, ça pouvait prendre entre 2 et 4 ans pour détecter la sclérose en plaques. Alors pour vous, Jérôme, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais on l'a détecté rapidement.
Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais oui, j'ai énormément de chance. On en parlait tout à l'heure. Oui, il y a des personnes qui attendent, parce que ça dure des années. Ça peut aller 10 à 20 d'années sans savoir c'est exactement ce qu'il y a, puisqu'il ne se passe pas d'événement.
Ils ont quelques symptômes, mais...
Ils ont quelques symptômes. On parle d'une dame, je cite un exemple d'une dame qui avait ce qu'on appelle des paresthésies, donc des fourmillements dans un bras droit, qui ont disparu comme ça un jour, et puis qui ont réapparu 10 ans plus tard. Elle a fait une autre poussée, où on l'a diagnostiqué, donc ça a mis 10 ans. Donc là, effectivement...
C'est l'anxiété. On ne sait pas mettre attention sur une maladie, on comprend pas les symptômes.
Michel Billot.
Oui, on parlait tout à l'heure entre nous de Marie Dubois, l'actrice Julie Jim, etc., qui a eu, pendant un tournage, alors qu'elle avait 24 ou 25 ans, une poussée qui lui a ôté la vision d'un œil.
Quand même.
Et la poussée suivante s'est produite entre 20 et 25 ans après. C'est-à-dire qu'elle a eu une vie parfaitement normale, elle a eu et élevé ses enfants, avant d'être rejointe par la maladie.
Bruno Stankoff, on doit s'en féliciter que cette maladie, parfois, laisse autant de répit à ses victimes.
Bien sûr, ça repointe ce que je disais tout à l'heure, la variabilité de l'évolution et parfois effectivement des périodes très très prolongées où il ne se passe rien, et tant mieux. Si on peut revenir juste au point du diagnostic,
oui, oui.
La rapidité du diagnostic, il y a deux éléments qui semblent importants. D'une part, il y a une quinzaine d'années, on faisait effectivement le diagnostic plus lentement pour une bonne raison, c'est qu'on n'avait pas les mêmes moyens d'investigation. Aujourd'hui, on utilise des moyens d'imagerie qui sont très sophistiqués.
L'IRM.
L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui ont été très étudiées, qui permettent donc de sensibiliser de façon considérable le diagnostic. Le deuxième point, c'est que cette maladie, pour en avoir une certitude diagnostique, il faut qu'on ait un tout petit peu de recul tout de même. C'est-à-dire que on peut faire une myélite, par exemple, une inflammation de la moelle épinière ou une névrite optique, et ça restera isolé. C'est-à-dire ça ne veut pas pour autant dire que c'est toujours une sclérose en plaque. Et pour définir la sclérose en plaques...
Oui, parce que la perte de la vue d'un œil, ça peut être plein d'autres choses aussi, docteur.
Absolument, absolument. Et pour définir la sclérose en plaques, il faut qu'il y ait une évolution dans le temps. En fait, il faut que la maladie soit une maladie chronique, donc qu'elle soit... Qu'elle